Attends, Robert, je vais débarrasser un petit peu. Bonjour à tous. Vous êtes trop timides. Bonjour à tous. Vous allez bien? Bon, moi aussi. Toujours un petit peu tendu, mais merci Seigneur pour ce qu'il met sur nos cœurs. Sa parole est vivante. Et chaque fois qu'on l'entend, cette parole, que ce soit ouverte dans la Bible, par les chants que nous avons chantés, il y a une vie qui vient dans nos cœurs. C'est comme une lumière qui éclaire ces choses, qui rend ces mots vivants, quoi. Et donc ce matin, je vais vous parler de la greffe. Donc ce sont toujours, donc j'ai pris une habitude un petit peu de vous parler des choses de la terre. Donc je veux bien que vous m'appeliez un serviteur paysan ou un paysan serviteur, ça ne me gênera pas du tout. Je trouve que dans les paraboles, déjà le Seigneur nous a montré comment il illustrait sa parole à travers des choses vivantes de la terre, parce que c'est lui qui les a créées aussi. Voilà. Donc, non, si tu peux projeter. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Parce qu'en fait, si je vous mets des images, c'est pour vous aider à comprendre. On dit qu'une image peut valoir 1000 mots dans l'explication. Donc, une greffe, en fait, c'est un arbre sur lequel, plus ou moins jeune, on va couper... au niveau des branches ou au niveau du tronc, et on va venir implanter des greffons qui viennent d'un autre arbre. Donc je vais vous parler de ça, et on appelle ça une opération chirurgicale. Et ce qui m'interpelle quelquefois, ce sont des titres de médias qui nous disent est-ce que l'homme s'approche de l'immortalité? Est-ce que enfin nous avons des techniques pour aller jusqu'à l'éternité? C'est vrai que pour nous, ça veut dire quelque chose, mais pas le même sens, quoi. Parce que l'angoisse de la mort est dans le cœur des hommes et des femmes, et cette recherche de l'immortalité est bien là. Mais je vous propose ce que le Seigneur nous parle dans sa parole, nous dit dans sa parole, c'est de nous greffer réellement. Donc, si tu peux mettre la deuxième diapo. Alors, est-ce que tu arrives à... Non, bon. Donc, il y avait une petite vidéo qui expliquait rapidement. C'était l'image d'un cerisier de 10 ans qui produisait des mauvaises cerises. Et j'ai elle-même à la maison. Et donc, j'avais décidé de le greffer aussi. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait puisque moi, j'étais prêt, mais le pépiniériste n'avait pas coupé les greffons à temps et puis ça ne s'est pas fait. Bon, peu importe. Mais ça m'avait fait me pencher sur cette technique de transmettre la vie d'une autre façon. Et en fait, c'est d'unir deux végétaux qui sont compatibles, qui sont de même nature. Mais il y en a un qui va perdre sa nature. Donc le cerisier, ce qu'on espère, le cerisier sauvage qui donne de mauvaises cerises, bon, on peut faire un peu de confiture avec, mais en mettant beaucoup de sucre, mais en tout cas, les bonnes cerises qu'on aime, bah, il ne les produit pas, quoi. Donc, on va chercher donc, des greffons. Ce sont des petites branches sur un bon cerisier. Et puis, donc, on va les mettre au contact de ces branches ou de ce tronc. Donc, bien sûr, l'ancien, le porteur, donc l'arbre ancien qui aura été coupé en partie, lui, il va perdre sa nature de produire de mauvaises cerises pour produire des bonnes. Mais ça sert aussi à autre chose, parce que c'est une technique qui est très très vieille. Ça peut servir aussi à donner de la résistance à un arbre vis-à-vis des maladies. Et c'est vraiment une technique culturelle qui est bien connue. Mais ça peut être aussi ajouter une autre variété donc à un arbre. Et donc, il y a des choses extraordinaires qui se font. Mais la nature est tellement puissante et tellement vivante qu'on peut faire des choses merveilleuses, quoi. Mais là, ce dont je veux vous parler, c'est vraiment un même arbre donc, qui produit des mauvais fruits et sur lesquels on veut greffer des greffons d'un bon fruit, d'un bon arbre fruitier, pour qu'il produise de bons fruits. Donc vous avez compris déjà un petit peu la similitude à la nouvelle naissance. Donc il nous est parlé dans Jean 3. Il faut que vous naissiez de nouveau. Donc je vais vous le lire, c'est un passage très très connu. Donc Jean 3, verset 1. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. » Donc Jésus expliquait à un enseignant d'Israël comment rentrer dans le royaume de Dieu, lui dont les yeux étaient aveuglés. Donc on va continuer. Verset 12. « Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. » Donc il parlait de lui-même, Jésus. « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé. » Et le monde, c'est qui ? C'est chacun d'entre vous. Parce que souvent, on dit ce verset bien connu, et le monde, c'est général. Mais le monde, c'est chacun d'entre vous. Donc, je voudrais que vous mettiez votre nom sur ces trois petits points, s'il vous plaît. En effet, Dieu a tant aimé, donc Jean-Luc, là, mais chacun d'entre vous, qu'il a donné son Fils unique, afin que chacun d'entre vous aussi, personnellement, individuellement, qui que vous soyez, que vous considériez bon ou méchant, chacun d'entre vous, pour chacun d'entre vous, Jésus a donné sa vie. Afin que, donc, chacun d'entre vous croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Verset 17, qui est quelquefois oublié. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. C'est encore un jour de grâce aujourd'hui, un jour où le Seigneur veut sauver des âmes, les attirer à lui. Chacun d'entre vous, vous êtes concernés là. Et ce n'est pas le moment du jugement. Le moment du jugement viendra après. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Tout est dit dans le texte, tout est dit dans la parole. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière La vie est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres, la mort. Ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Amen. Et donc je reviens à la greffe. Donc en fait, dans la greffe, il y a une amputation. J'ai parlé d'opération chirurgicale. Il y a quelque chose qui est mort en moi. À la nouvelle naissance, il y a quelque chose qui est mort en moi. Ça, c'est clair. Donc la tête ou les branches du receveur ont été coupées. Il n'y a plus de vie, là. Et donc le greffon, lui, il va quitter aussi l'arbre où il était et rentrer au contact du porteur. Et les deux ne vont plus faire qu'un. Et en fait, la réussite de la greffe, c'est vraiment que les deux ne font plus qu'un. Donc les deux ne font plus qu'un pour que la sève puisse monter des racines par le tronc et venir à ces petits greffons qui, tout petits, vous les avez vus sur la première image, ils sont tout petits, ça fait les 10 cm, il y a quelques bourgeons, mais on a fait tout en sorte pour que les deux, le tronc ou la branche, soient au contact de la petite branche qui a été préparée pour ça. Et donc le jardinier, il va aussi protéger donc avec un enduit enfin, pour éviter que l'arbre qui a été blessé soit malade derrière et que le tout se solidarise. Et tout cela, ça se fait aussi à un moment opportun. Il y a un moment dans la saison où ça se fait et d'autres moments où ça ne se fait pas. Moi, ça me fait penser à des moments de notre vie, des moments de notre vie où on n'entendait rien du tout. Nos oreilles étaient bouchées, nos yeux étaient fermés. C'était un petit peu le cas de Nicodème, qui était un docteur, c'était un enseignant, et il avait reçu toute la parole, il la connaissait sûrement par cœur, mais ses yeux étaient fermés. Il y a eu ce temps où il a été vers Jésus. Ce temps où son cœur s'est ouvert, il n'a sans doute pas cru ce que ses collègues qui enseignaient pouvaient lui dire. Et il a cru que Jésus était beaucoup plus grand que lui. Il a dit « Je veux comprendre ». Il y a des moments dans notre vie, c'est ça. Alors, nous, on peut parler, mais les cœurs ne sont pas toujours préparés. Mais par contre, on prie pour que les cœurs soient préparés, que les cœurs soient ouverts à recevoir la vie du Seigneur. Et j'ai un ami qui disait souvent ça, enfin, qui le dit toujours, il est toujours vivant. Ne tire pas sur les carottes pour les faire pousser, parce que bien au contraire, tu vas les déraciner. Et puis, le contact avec la terre qui la nourrit va être perdu. Donc, il y a des moments opportuns, et c'est aussi le discernement qu'on doit avoir de parler, d'agir. Parce que le temps, il est entre les mains du Seigneur, et il y a des temps pour chacun d'entre nous. Des temps de naissance. Le Seigneur nous parle dans l'Ecclésiaste, oui, Yves, qu'il y a un temps pour toute chose. Et ça veut bien dire quelque chose. Et donc, il y a un échange de vie, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et ça nous rappelle aussi le verset de Galates 2:20, « Ce n'est plus moi qui vis. J'étais crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est ce que tous ceux qui ont vécu la nouvelle naissance peuvent dire. C'est qu'à un moment donné, leur vie a basculé. Et quelque chose a été amputé, oui, de leur ancienne vie. Pour que la nouvelle vie la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu est venu attester quelque chose dans nos cœurs, écrire quelque chose, écrire la vérité, une vérité qui nous était inconnue, est venue l'écrire dans nos cœurs. Et la sève, donc la nature de Dieu, la vie Zoé de Dieu, puisse remonter, alimenter notre âme, alimenter tout notre être entier, et qu'on puisse vivre pour le Seigneur. Et donc, dans Jean 17, qu'on verra tout à l'heure, il est dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et tout ce chapitre-là, de Jean 17, il y a un message d'unité, d'union, de communion, d'intimité. Et vous verrez tout à l'heure comment ce chapitre est précieux pour nous dire que, oui, les choses ont changé. On ne peut plus faire qu'un avec Dieu. Et si vous m'entendez aujourd'hui et que vous dites, mais c'est vraiment très étrange ce qu'il nous raconte, là, j'ai jamais vécu ça. Alors on va continuer, parce que c'est aussi pour vous. Donc les images derrière, sur la photo qui est à ma droite, donc on a une greffe, là aussi, c'est un cerisier aussi, qui a vraiment bien pris. Et donc on voit le point de greffe, là où ça a été, le tronc avait été ouvert, là où on avait placé les greffons, et vous voyez les branches que ça a portées, quoi. Et à côté, il y en a un autre qui est plus tordu. Ça s'est fait de façon beaucoup plus difficile. Donc peut-être c'est une cicatrice beaucoup plus difficile. Peut-être il y a eu un problème de cicatrisation ou de maladie qui est venu. Mais puis on voit que ça ne s'est pas très bien passé. Mais bon, le greffon est parti quand même. Mais à côté, il y a un rejet du porte-gravier, une autre branche qui a poussé. Donc une branche sauvage qui a continué de pousser. Donc quelquefois, ça nous parle aussi, ça veut dire que quelquefois dans nos vies, il y a encore des rejetons qui ont poussé. Tout n'est pas réglé. La photo d'après, alors là, c'est sur un pied de vigne. Et on voit bien comment, qui a été coupé, on voit bien à la coupe, comment les deux ne font qu'un, quoi. Ils sont enclavés l'un dans l'autre, quoi, pour ne faire qu'un. Voilà. Alors, l'échec à la greffe. Donc, le contact ne s'est pas établi et la sève ne veut pas circuler. Et donc, il n'y a pas d'échange. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se... Il y a des nécroses qui peuvent se faire sur les tissus végétaux qui s'épaississent d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. Et puis, l'échange ne se fait pas, quoi. Mais ça se fait à un moment donné. Donc, c'est au printemps où ça se fait. Et on attend ce moment-là pour que le maximum de sève remonte dans le tronc, quoi. Et puis, c'est là que, vu l'affluence de sève, on met toutes les chances de notre côté pour qu'elle puisse imbiber, qu'elle puisse toucher le greffon qui vient d'être mis et que l'échange commence à se faire, quoi. Parce qu'effectivement, la sève, c'est la nourriture de l'âme. Mais la nourriture peut être pauvre. Donc si les canaux dans lesquels circule la sève sont obstrués, s'ils se sont endurcis, ça ne va pas passer. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y a un temps aussi pour le faire. Si vous le faites en plein été, ça ne marchera pas. Donc Ecclésiaste 3 que je retrouve, merci Yves. J'ai reconnu que tout ce qui est fait durera toujours sans qu'on puisse ajouter... Oui, pardon, parce qu'il y a un temps pour réussir la greffe, il y a un temps pour toute chose. Nous dit Ecclésiaste 3, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin que l'on éprouve de la crainte devant lui. Quand on voit ces choses, mais quand on voit aussi ce qui a pu se passer dans nos vies, il y a quelque chose qui s'installe aussi dans nos cœurs, qui peut être vraiment glorieux, parce qu'en fait, notre image de Dieu change. Ce qu'on appelle la crainte de Dieu, ce n'est pas une peur, une terreur de Dieu, bien au contraire, c'est de recevoir dans son cœur toute la sainteté de Dieu, toutes les merveilles que Dieu peut faire, toute la grandeur de Dieu et toute sa bonté, sa miséricorde pour nous aussi. Et devant ça, devant cet immense amour de Dieu, on a de la crainte, oui. Parce que qui sommes-nous ? C'est lui qui a tout fait, c'est lui qui nous a donné la vie. Et dans le règne végétal, comme en nous, il continue d'activer cette vie. Donc je vous ai parlé de maladies aussi qui peuvent infecter l'opération chirurgicale. C'est pour ça que cet enduit est mis autour de la greffe pour protéger l'arbre qui a été ouvert, qui a perdu sa protection naturelle. Et pour nous, l'antiseptique, c'est la foi et la prière. C'est d'arroser de foi et de prière la foi qu'on a reçue. Tu as dit, Seigneur, ce n'est pas par hasard que je suis là, ce n'est pas par hasard que tu as touché mon cœur. Je crois que tu m'as donné la vie. Je crois que tu peux donner la vie, toujours, à n'importe qui. Et nous sommes bien sûr placés dans un monde où on peut avoir des virus, des maladies, des bactéries, des infections qui circulent et qui peuvent atteindre un tissu qui est fragilisé, une nouvelle naissance. Et le Seigneur nous dit dans Jean 10, 10, un verset que vous devez bien connaître aussi, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Tout le royaume de Dieu, toute la création de Dieu nous fait voir l'abondance. Je ne sais pas si, quand vous ouvrez vos yeux, quand vous êtes dans la nature, si vous voyez l'abondance de ce que Dieu fait. L'abondance du renouvellement, saison après saison, de ce qu'il produit. Et à plus forte raison, si le Seigneur prend soin des végétaux, des animaux, il peut prendre soin de nous. C'est pour ça qu'il nous est dit, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il y a une abondance auprès du Seigneur. Il y a une abondance dans l'unité avec le Seigneur. Et le corps, l'Église qui est en action, qui est en action pour Jésus, mais Jésus, la tête, commandant les actions du corps, tout cela bien coordonné, qui produit, qui entretient la vie. Mais ce n'est pas nous qui donnons la vie. Peut-être je vous avais dit une fois, personnellement, je ne peux rien faire pour vous. Et chacun d'entre nous, qui sommes avancés, et qui continuons de servir le Seigneur, nous ne pouvons rien pour vous. Ce qu'on peut faire, comme des ouvriers, comme un jardinier, va venir poser la greffe, l'installer. Mais ce n'est pas le jardinier qui va faire monter la sève. Ce n'est pas le jardinier qui va créer l'unité entre ces deux arbres ou ces deux parties d'arbres différentes. C'est parce que c'est la nature même de Dieu qui est dans cette terre, qui est dans cet arbre, qui produit cette cicatrisation, qui va produire cet échange, qui va produire cette vie. Et dans vous, c'est la même chose. Nous, on annonce une parole que j'espère à propos. Mais ensuite, c'est le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui va arroser, qui va révéler, qui va toucher. Alors ensuite, ouais, il peut y avoir aussi des greffes mélangées. On a un pommier dans notre verger qui produit deux variétés. Une qui n'est pas terrible et l'autre qui est bonne. C'est un pommier qui a été greffé, mais il y a une partie de l'ancien pommier qui est restée. Et le nouveau, lui, il a pris et il donne des bonnes pommes, mais il porte quand même deux variétés de pommes, quoi. Donc ce n'est pas vraiment ce qu'on avait pu choisir, mais c'est ce qui s'est passé. Et donc, ces choses-là peuvent c'est ce qu'on appelle des vies partagées. C'est-à-dire qu'on est un pied avec le Seigneur et un pied dans le monde. On ne veut pas délaisser les choses du monde qui nous séduisent, qui nous ont séduits. Mais de l'autre côté, on sait quand même qu'avec le Seigneur, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de merveilleux, mais notre cœur reste partagé. Et ça, ça ne dure qu'un temps, parce que plus ça va, plus c'est inconfortable. À un moment donné, il faut choisir. Et donc, on va continuer, mais parce qu'en fait, le Seigneur nous a parlé de ça aussi dans Matthieu 13, qui est une autre illustration. Donc, le bon grain est livré. Matthieu 13, verset 25. « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en herbe, donc l'ivraie, pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. » Non, si tu peux mettre la diapo d'après. Quand le blé est en herbe, il est en herbe. Ça ressemble vraiment à de l'herbe. L'ivraie, c'est de l'herbe. On appelle ça le régras. Et ça ressemble vraiment, enfin, sauf pour les connaisseurs, à du blé. Et donc, on ne le voit pas. Tout est de l'herbe, quoi. Mais au bout d'un certain temps, alors là, dommage, oui, c'est... Moi, je vois des épis. Est-ce que vous voyez des épis? Il y en a qui sont un peu plus jaunes que les autres. Et puis d'autres qui dépassent et qui en tout cas, déjà sur la photo, ne sont pas à maturité. Et eux ne vont pas produire une céréale. Donc, ça veut bien dire, c'est aussi un exemple dans nos vies, quoi. Que, à la fois, nous devons nettoyer notre champ, les choses qui peuvent pousser. Et comme dans l'histoire de la greffe, hein, il peut y avoir deux récoltes différentes, mais il y en a une qui est jetée au feu. Et choisir la bonne semence. J'espère que ça vous parle. J'endors personne. Alors, nous allons passer à un autre chapitre. C'est greffé sur l'olivier franc. Parce qu'il nous est parlé de la greffe dans la parole de Dieu dans Romains 11. Et on n'est pas parlé tout à fait de la même façon. Ça reste la même technique, mais ce n'est pas tout à fait le même système. Romains 11, verset 17. « Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes, et tu es devenu participant à la racine, de la racine, pardon, et de la sève de l'olivier. Ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Si tu demeures dans sa bonté, autrement toi aussi tu seras retranché. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Donc là, ce passage-là, nous avons parlé donc d'une greffe sur l'olivier. Et l'olivier domestique, c'est Israël. Et l'olivier sauvage, ce sont nous, les païens. Donc c'est une autre illustration. Et donc là, c'est un bon arbre. C'est plus le, c'est un bon arbre, c'est le bon olivier, celui qui donne des bonnes olives et qui produit en quantité, en abondance. Mais seulement, il est parlé là de branches qui ne produisaient plus, qui étaient devenues sèches, et donc qui ont été retranchées. Et nous, oliviers sauvages, on a été greffés à leur place. Ça, c'est glorieux, vraiment glorieux, parce que c'est la manifestation de la bonté de Dieu envers toute sa création, envers toutes les personnes qu'il a envoyées sur cette terre pour qu'elles soient réconciliées avec lui, qu'elles viennent sur ce bon olivier. Et en fait, alors si tu peux mettre l'autre, voilà. Donc vous voyez que c'est pas la même technique que celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis certains commentateurs se sont dit, bon, Paul n'a peut-être pas compris. Moi, ça m'a... Moi, je me suis dit, oh, il y a des chances qu'il ait bien compris, quand même. Ça veut dire autre chose. Bon, et en fait, c'est toujours une technique qui existe et qui est une technique de relance de la productivité d'un vieil arbre qui commence à se dessécher. Il y a des branches qui ne produisent plus. Et alors là, je vous parlais d'opération chirurgicale. Là, c'en est toujours une, parce qu'une vieille branche, la faire repartir, donc on ne peut pas. Mais donc, on doit faire une incision, on doit faire une greffe à côté de quelque chose dont on n'est pas sûr qu'il y ait la vie. Mais pourtant, donc, ça se faisait et ça se fait toujours. Et donc, Paul ne s'est pas trompé du tout. Il a trouvé une très bonne illustration pour dire que Dieu a appelé aussi les païens. Les gens qui étaient détournés de Dieu depuis toujours, les gens avec qui Dieu n'avait pas fait l'alliance au départ. Mais il est venu pour les chercher. Nous, oliviers sauvages, il est venu nous chercher et nous a pris, tac, greffé sur l'olivier franc, l'olivier domestique, celui qui va produire, celui qui l'agrée, c'est cet arbre-là qu'il veut. Et ce n'est pas un autre. Donc, Paul, cet intellectuel... Non, il avait les pieds sur terre. Et il s'est servi aussi sûrement d'illustration de la terre, de la création, pour égayer, illustrer son message. Et donc, dans la parole, tout se tient, on retombe toujours sur quelque chose qui nous parle de ces choses. Et Jean 15, qui est un chapitre merveilleux, le verset 1 et le verset 2, « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. » Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc là, c'est une autre technique, c'est la taille. Mais il est quand même bien parlé que l'arbre saint, c'est Jésus, et le divin jardinier, c'est le Père qui taille, qui greffe, et nous a greffé, gloire à Dieu. Et c'est vrai que on parle d'olivier sauvage, et j'ai mis, nous étions des sauvages, des vrais sauvages. Ça nous fait sourire, hein, mais il y a des fois, ça... c'est un peu moins drôle quand même, suivant les conséquences que ça a pu avoir dans nos vies. Et nous étions coupables, nous sommes coupables par nature, incapables de quoi que ce soit, incapables nous-mêmes de nous greffer à l'arbre. C'est une grâce qui nous a été faite. C'est pour ça que je vous dis, moi je peux vous annoncer quelque chose, mais celui qui plante, celui qui crève, celui qui arrose, celui qui fait circuler la sève, c'est Dieu. C'est la vie de Dieu qui est répandue en nous. Donc restons humbles et vigilants, et surtout ne nous dupons pas nous-mêmes, nous ne sommes pas arrivés. Bien sûr, le Seigneur nous a fait une grâce immense. Mais conservons sur notre cœur cette grâce immense qui nous a fait de nous greffer, de nous donner une nouvelle nature, de nous donner une nouvelle nourriture qui nous nourrit de la vie de Dieu. Une nourriture qui ne périt jamais. Et j'en viens à Jean 17, qui est un chapitre merveilleux aussi. Et là, il y a trois parties, mais la troisième partie nous concerne. Nous, Église, venue après les apôtres, les premiers apôtres. Jean 17, verset 20. Donc voilà, je ne prie pas pour eux seulement. Donc là, il parlait des premiers disciples. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Voilà, c'est toute l'Église. Ici à Rennes, mais sur toute la terre, l'Église qui a suivi. C'est pour tout cela que Jésus priait. Et mes amis, c'est Jésus qui priait. C'est pas Jean-Luc qui priait. C'est Jésus qui priait. Quelquefois, vous pouvez entendre des prières, et puis peut-être vous vous dites, elle ne va pas monter plus haut que le plafond. Mais là, c'est Jésus qui priait. Il priait pour nous. Il priait pour nous. Il nous a appris à prier à travers cette prière. Il priait pour nous. Donc je suis sûr que sa prière a été exaucée. Donc je vais continuer. Et je suis sûr que tout ça s'est accompli. Mais c'est aussi un modèle de prière. Parce que la parole nous dit que Jésus continue d'intercéder pour nous. Donc il continue d'intercéder pour nous au ciel. De la même façon que cette prière, pour chacun d'entre nous, pour que nous allions jusqu'au but, pour que nous soyons réunis avec lui pour toujours. Donc verset 21, « Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Nous en eux et toi en moi. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. C'est vous, mes amis. Afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Amen. C'est lui qui nous a donné cette vie, qui a permis que la greffe prenne, que nous soyons plus alimentés des choses de ce monde qui procuraient des cerises aigres, mais que maintenant nous produisions du bon fruit. C'est lui qui a permis que cette greffe prenne. Alors je ne sais pas où vous en êtes ce matin. Peut-être pour certains, c'est une découverte qu'on peut être uni au Seigneur, qu'on peut être uni à Dieu, qu'il a désiré ça, qu'il a désiré qu'on soit unis, ne faisant qu'un. Peut-être vous découvrez même ce mot qui est nouvelle naissance. Naître d'en haut. Naître par la volonté de Dieu. Alors, je ne sais pas pour vous, peut-être, ça c'est le premier groupe. Et puis le deuxième groupe, c'est peut-être ceux qui disent, mais ma greffe, j'ai l'impression qu'il y a des rejets. Ça ne pousse pas selon ta nature, Seigneur. Les cerises sont aigres. Le fruit n'est pas bon encore, Seigneur. Mes amis, c'est le moment où peut-être le Seigneur tape à votre cœur, frappe à votre cœur et dit « c'est pour toi cette parole ». Alors je vais vous demander aux deux groupes de vous avancer, on va prier pour vous, ne sortez pas de cet endroit. ne sortez pas de cet endroit. Si le Seigneur vous reprend, n'endurcissez pas votre cœur. Vous savez, à force d'entendre et d'entendre la parole, il y a quelque chose qui se produit. C'est qu'au lieu de l'attendrir, notre cœur peut s'endurcir. Parce qu'on a pris les choses d'une façon religieuse. Et la vie que le Seigneur nous, veut nous donner, nous n'avons pas pris cette vie. Nous avons pris quelque chose de religieux. Alors si vous voulez bien, vous pouvez vous avancer, on va prier pour vous. Je vais prier, je vous donne une minute pour vous avancer. Mais ne partez pas de cet endroit. Ne partez pas de cet endroit. Ne partez pas de cet endroit si dans votre cœur, il y a encore des choses qui vous ont interpellé. Si la greffe n'a pas pris, s'il n'a toujours pas été faite d'ailleurs. Vraiment que le Seigneur puisse vous bénir. Seigneur mon Dieu.